Les États-Unis, l'Europe et l'impôt sur la propriété, un débat inachevé. Au-delà de la question du dépassement de l'État-nation et de la mise en place d'impôts communs et de coopération fiscale nouvelle, il faut enfin souligner que les réflexions autour de la notion d'impôt juste méritent elles aussi d'être approfondies. De façon générale, ces réflexions se sont concentrées depuis le XVIIIe siècle autour de l'impôt progressif, c'est-à-dire un impôt prélevé à des taux faibles sur les plus pauvres et dont les taux s'élèvent graduellement pour les plus riches. De multiples projets d'impôts progressifs ont été débattus sous la Révolution française, avant d'être mis en place à grande échelle et sur tous les continents au XXe siècle. Cette trame générale est importante, mais elle n'épuise pas le sujet, car derrière la notion générale d'impôt progressif figurent plusieurs réalités différentes. De façon générale, on peut distinguer trois grandes catégories d'impôts progressifs. L'impôt progressif sur le revenu, l'impôt progressif sur les successions et l'impôt progressif annuel sur la propriété. Ces trois impôts ont leur justification et doivent être considérés comme complémentaires les uns des autres. L'impôt progressif sur le revenu pèse en principe sur l'ensemble des revenus perçus au cours d'une année donnée, quelle que soit leur source, revenu du travail, salaire, pension, revenu des professions non salariées, etc., ou revenu du capital, dividendes, intérêts, loyers, profits, etc. Ce qui permet de mettre chacun à contribution en fonction de ses ressources du moment, et donc de sa capacité actuelle à contribuer aux charges publiques. L'impôt sur les successions, qui en général prend également en compte les donations, est prélevé au moment des transmissions patrimoniales et permet ainsi de réduire la perpétuation intergénérationnelle de la fortune et la concentration des patrimoines. L'impôt annuel sur la propriété, également appelé impôt sur la fortune, ou impôt sur le capital, ou encore impôt sur le patrimoine, est prélevé chaque année en fonction du total des biens que l'on possède, que l'on peut considérer comme un indice de la capacité contributive plus révélateur et plus durable, et dans une certaine mesure moins aisément manipulable que le revenu annuel. Il est en outre le seul à permettre une redistribution permanente de la propriété et une véritable circulation patrimoniale. L'expérience historique suggère que le système fiscal idéal doit chercher à trouver un équilibre entre ces trois formes a priori légitimes d'impôt progressif, sur la base des connaissances léguées par l'histoire. Cet objectif n'est pas simple à réaliser, car il suppose une large appropriation sociale et politique de questions qui concernent certes tout un chacun, mais dont l'apparente technicité peut parfois conduire les meilleures volontés à choisir de se reposer sur d'autres, qui ne sont malheureusement pas toujours les plus désintéressés. En pratique, on constate que la quasi-totalité des pays développés ont mis en place à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle un impôt progressif sur le revenu et un impôt progressif sur les successions, avec des taux faibles dans le bas de la distribution et des taux applicables aux plus hauts revenus et patrimoines qui ont atteint au cours de la période 1950-1980 des niveaux extrêmement élevés, typiquement 60-90%. Par comparaison, les trajectoires suivies concernant l'impôt sur la propriété ont été plus diverses et hésitantes. Des impôts exceptionnels et progressifs sur la propriété privée ont joué un rôle important dans de nombreux pays. Les expériences en matière d'impôts progressifs annuels et permanents sur la propriété ont été plus limitées, mais nous allons voir que les débats, et parfois les réalisations, ont été extrêmement nombreux et instructifs, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Tout laisse à penser que cette question de l'impôt progressif sur la propriété va jouer un rôle central au XXIe siècle, en raison notamment de la remontée très forte du niveau général des propriétés privées et de la concentration des patrimoines depuis les années 1980-1990. Plus généralement, l'une des thèses défendues dans ce livre, que je présenterai de façon plus détaillée à l'issue de cette enquête, est que la mise en place d'un véritable impôt progressif sur la propriété, permettant le financement d'une dotation universelle en capital, pourrait contribuer à faire face aux dérives inégalitaires et identitaires du capitalisme globalisé actuel. L'impôt progressif sur la propriété ou la réforme agraire permanente. Commençons par analyser le cas des prélèvements exceptionnels sur la propriété privée. À la suite des guerres mondiales, de multiples impôts exceptionnels sur la propriété immobilière, professionnelle et financière, ont été mis en place avec succès pour apurer les dettes publiques, en particulier au Japon, en Allemagne, en Italie, en France et dans de nombreux pays européens. Ils étaient prélevés en une seule fois et les taux appliqués au patrimoine bas et moyen étaient nuls ou faibles, alors que ceux imposés au plus haut patrimoine privé atteignirent souvent 40-50%, voire davantage, ainsi que nous l'avons déjà évoqué. Malgré leurs insuffisances, et en particulier la faible coordination internationale dont ils firent l'objet, ces prélèvements ont été dans leur ensemble de grands succès, dans le sens où ils ont permis de se défaire de dettes importantes à un rythme accéléré, et de façon plus juste et maîtrisée qu'au travers du chaos inflationniste, et de consacrer ainsi les ressources disponibles à la reconstruction et à l'investissement dans l'avenir. D'une certaine façon, les réformes agraires constituent également une forme d'impôt exceptionnel sur la propriété privée, puisqu'elles consistent à saisir une partie des domaines terriens les plus étendus, jusqu'à 40-50%, ou même la quasi-totalité s'agissant de propriétés couvrant parfois des régions entières, pour les redistribuer en parcelles de petite taille pour des exploitants individuels. De façon peu surprenante, les réformes agraires font généralement l'objet de luttes sociales et politiques intenses. Nous avons déjà évoqué les redistributions de terres réalisées sous la Révolution française, ainsi que le cas des réformes agraires en Espagne et celui des absentee landlords en Irlande, et des redéfinitions des droits de propriété des terres irlandaises entreprises par les gouvernements britanniques à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Les réformes agraires de grande ampleur appliquées au Japon et en Corée en 1947-1950 sont généralement considérées comme de grandes réussites. Elles ont permis de mettre en place une répartition relativement égalitaire des terres agricoles et aller de pair avec des stratégies d'investissement social et éducatif qui ont permis le décollage économique ultérieur et le consensus politique autour de la stratégie de développement. Nous avons également noté les effets très positifs en termes de productivité associés aux réformes agraires malheureusement plus timides mises en place en Inde, en particulier au Bengale occidental à la fin des années 1970 et dans les années 1980. À l'inverse, les réformes agraires menées en Amérique latine, et en particulier au Mexique à partir de la révolution de 1910, se sont heurtées à de fortes résistances de la part des propriétaires et se sont accompagnées de processus politiques très longs et souvent chaotiques. De façon générale, une limitation importante des réformes agraires et plus globalement des prélèvements exceptionnels sur la propriété privée est qu'ils ne permettent de régler que temporairement la question de la concentration de la propriété et du pouvoir économique et politique. Or, l'expérience historique montre que de nouvelles inégalités se recréent en permanence à partir de nouvelles formes de propriété. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir recours à un impôt progressif sur la propriété sur une base annuelle et permanente, avec des taux applicables aux plus fortes détentions patrimoniales qui sont naturellement plus limités que ceux utilisés dans le cadre d'un prélèvement exceptionnel, mais néanmoins suffisamment élevés pour permettre une véritable mobilité de la fortune et éviter que se reconstitue une concentration excessive. Si un tel impôt était utilisé pour financer une dotation universelle en capital à chaque jeune adulte, alors il s'agirait de facto d'une forme de réforme agraire permanente et continue, s'appliquant à l'ensemble du capital privé et non seulement des terres agricoles. On peut certes considérer que les terres, et plus généralement les ressources naturelles, justifient une forme particulière de redistribution dans la mesure où elles n'ont été accumulées par personne, et qu'elles font donc partie en quelque sorte du patrimoine commun de l'humanité. De fait, la plupart des pays ont par exemple des législations particulières pour réguler la propriété du sous-sol et permettre différentes formes de partage et d'appropriation collective. Si une personne découvre dans le fond de son jardin une nouvelle ressource naturelle d'une valeur exceptionnelle permettant de sauver la vie de l'ensemble de la planète et que l'ensemble des terriens s'apprête à disparaître si cette ressource n'est pas partagée de rechef, alors il est probable que le système juridique et politique sera très vite amendé pour permettre une telle redistribution, que l'heureux propriétaire du jardin le veuille ou non. Il serait cependant erroné de considérer que ces questions se posent uniquement pour les ressources naturelles. Dans l'exemple cité, la légitimité de la redistribution serait tout aussi forte si le propriétaire du jardin, en se réveillant de sa sieste, avait eu l'idée géniale d'une formule magique d'un médicament permettant de sauver la planète. La question n'est pas tant de savoir si une richesse constitue une ressource naturelle appartenant à tous, ou bien une richesse privée qui pourrait être attribuée à l'action d'un seul individu isolé, car au fond, toutes les richesses sont avant tout sociales. En particulier, toutes les créations de richesses dépendent de la division du travail social et du capital de connaissances accumulées depuis les débuts de l'humanité, dont aucune personne vivante ne saurait être tenue pour responsable ou propriétaire. La question importante est plutôt de savoir dans quelle mesure l'intérêt général, et en particulier l'intérêt des groupes sociaux les plus défavorisés, justifie tel ou tel degré d'inégalité de la propriété, quelle que soit la nature de la propriété. En tout état de cause, il serait illusoire de penser qu'il suffirait pour rendre une société juste de procéder une bonne fois pour toutes à une grande réforme agraire concernant les terres et l'ensemble des ressources naturelles, puis de laisser les uns et les autres échanger et accumuler jusqu'à la fin des temps. À la fin du XIXe siècle, en plein Gilded Age, au moment où les États-Unis s'inquiétaient de la concentration croissante des richesses aux mains de quelques-uns et du pouvoir grandissant des grandes compagnies et de leurs actionnaires, l'écrivain autodidacte Henry George eut un grand succès en dénonçant la propriété privée de la terre. Son livre, Progress and Poverty, publié en 1879 et sans cesse réédité et diffusé en plusieurs millions d'exemplaires au cours des décennies suivantes, raillait avec bonheur les droits extravagants que s'étaient arrogés les propriétaires du sol américain, alors même que les origines des découpages terriens remontaient souvent à l'époque du roi d'Espagne, du roi d'Angleterre et du roi de France, voire du pape. Dans la même veine anti-monarchique, anti-européenne et anti-propriétariste, il dénonçait les prétentions des propriétaires terriens à une compensation, en allant même jusqu'à les comparer aux propriétaires d'esclaves qui avaient réussi à être grassement indemnisés lors de l'abolition britannique de 1833-1843. Pourtant, au moment de donner sa solution aux maux du pays, George se montra finalement assez conservateur. Il prétend régler tous les problèmes au moyen d'un impôt proportionnel sur la propriété du sol, égal à l'intégralité de la valeur locative du terrain vierge de toute construction, tout drainage ou toute amélioration, de façon que chacun puisse profiter pleinement du fruit de son travail. Outre qu'il ne prévoit rien pour imposer les successions futures, et laisse donc ouverte la possibilité de la reconstitution d'une très forte concentration de la propriété non terrienne, sa proposition est rendue impraticable par le fait qu'il est quasiment impossible de distinguer la valeur du sol pur de celle des multiples améliorations et aménagements apportés au fil du temps, sauf à accepter un impôt fondant comme une peau de chagrin. C'est pourquoi aucune application pratique de cette proposition ne fut véritablement envisagée. Le mouvement de dénonciation des inégalités, auquel Henry George avait contribué, déboucha finalement sur la création de l'impôt progressif sur le revenu en 1913 et de l'impôt progressif sur les successions en 1916. Un demi-siècle plus tard, la question de l'impôt sur la propriété revint de façon beaucoup plus radicale dans le débat états-unien avec les propositions du sénateur démocrate de Louisiane, Huey Long. Lui aussi très remonté contre le pouvoir des actionnaires et des grandes compagnies, il tenta, au début des années 1930, de doubler Roosevelt sur sa gauche sur les questions de progressivité fiscale, en expliquant que l'impôt progressif sur les revenus et les successions ne suffirait pas à résoudre les problèmes du pays. En 1934, il diffusa une brochure présentant son plan d'action intitulé « Share our wealth, every man a king ». Le cœur de son programme consistait en la mise en place d'un impôt lourdement progressif sur tous les patrimoines supérieurs à 1 million de dollars, environ 70 fois le patrimoine moyen de l'époque, de façon à pouvoir garantir à chaque famille une part dans la richesse des États-Unis sous la forme d'un patrimoine au moins égal à un tiers de la moyenne du pays. Le tout était complété par un renforcement de la progressivité de l'impôt sur le revenu et sur les successions, de façon à financer une augmentation du niveau des retraites pour toutes les personnes âgées disposant de faibles patrimoines, ainsi qu'une réduction du temps de travail et un plan d'investissement visant à rétablir le plein emploi. Personnage haut en couleur, autoritaire et controversé, issu d'une famille pauvre de petits blancs de Louisiane, Huey Long avait annoncé son intention de défier Roosevelt lors des primaires démocrates de 1936. En partie, pour répondre à cette pression, Roosevelt fit adopter dans le Revenue Act de 1935 une « wealth tax » qui était en réalité une surtaxe de l'impôt sur le revenu avec un taux de 75% sur les plus hauts revenus. La popularité de Huey Long était à son zénith en septembre 1935. Plus de 8 millions de membres dans les comités locaux Share Our Wealth, des audiences records de 25 millions d'auditeurs dans ses émissions radio, quand il fut abattu à la carabine par un opposant politique dans la State House de Baton Rouge.